Donc, le thème de ce soir, c'est de parler de la... Ça va le son ? Oui ? La docilité. Après avoir parlé de l'émancipation, on va parler de la docilité. Il me semble qu'il y a un intérêt... Moi, je m'entends bizarrement, mais... Pas si bien, hein ? C'est trop près. Comme ça, c'est mieux ? Non. Comme ça ? Oui, peut-être comme ça, c'est mieux. Ouais. C'est pas très très haut, c'est vrai. Mais si vous venez beaucoup plus près, c'est... Non, non. Je parle comme si je murmurais. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, je peux me forcer 5 minutes, mais c'est tout. Ça va comme ça ? C'est bon ? Ok. C'est mieux que vous m'entendiez correctement. Hein. Oui, bon. Donc, la docilité, je disais, oui, c'est intéressant philosophiquement. Quand on s'intéresse à une question, ça pourrait être, je ne sais pas moi, qu'est-ce que pour vous le bonheur, disons, bah, de l'observer sous les deux faces positives et négatives. C'est-à-dire, qu'est-ce que le bonheur, mais aussi, dans le fond, qu'est-ce qui me rend malheureux et où je vois de la difficulté de vivre. Eh bien, c'est finalement ce que je vous propose sur ce thème, c'est d'avoir été observé un peu du côté positivement de l'émancipation, quelles étaient les formes de l'émancipation, quels étaient les cheminements possibles vers l'émancipation, d'une part, et puis d'aller un peu de l'autre côté, du côté plutôt de l'obéissance. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre obéissance et docilité ? Est-ce que vous avez une idée de ça ? La docilité et l'obéissance. Alors, s'il y a des latinistes, oui, peut-être un latiniste ? De l'extérieur et la docilité, une qualité individuelle. Voilà, obéissance dans un rapport à autrui et la docilité, une qualité personnelle. Oui, première chose. Et alors, la deuxième chose, c'est que, et on va le chercher alors là dans l'étymologie, c'est qu'il y a une parenté entre la docilitas et le verbe docere, ça vient de là, et docere, c'est apprendre. Donc en fait, quand on parle de docilité, c'est cette vertu particulière qu'il faudrait avoir pour apprendre. Donc ici, il s'agira bien d'envisager l'obéissance dans le cadre tout à fait singulier de l'éducation et donc d'un rapport d'apprentissage. Donc plutôt docilité. Alors comment est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par opposer un peu, terme à terme, un auteur que nous avons vu la fois passée. J'espère que vous étiez là tous, sauf... mais je vais rappeler, hein, ne vous tracassez pas. Qui était Aristote. Donc, opposer les formes de la docilité requise dans le modèle aristotélicien, qui représentait assez bien le modèle grec de façon générale, au modèle monastique et les formes de l'obéissance, de la docilité requise dans le modèle monastique. La fois passée, c'était vous offrir en contraste des versions différentes de l'émancipation. Ici, c'est vous offrir en contraste deux mondes. Le monde antique, symbolisé par Aristote, le monde chrétien, en allant chercher, alors plus précisément, du côté de Cassien et de Saint-Benoît. Donc, je vais m'adresser au monastère, d'une part, en tant qu'ils sont les fondations institutionnelles de l'école contemporaine, c'est ça qui m'intéresse. Et dans les monastères, j'ai été chercher les choses les plus représentatives. Alors peut-être que Cassien, ça ne vous dit rien, je ne sais pas, non. Mais dans le fond, c'est le moine qui a fait la jonction entre le monachisme oriental et originel, puisque le monachisme, il a commencé d'abord en Thébaïde, en Égypte, et puis il a été implanté vers le 4e, 5e siècle en Occident. Et Cassien, c'est ce moine qui a d'abord été se mettre à l'école de Jean Chrysostome, et puis qui est revenu du côté de Marseille fonder une série de communautés monastiques en implantant en Occident les règles de la vie monastique orientale. Donc Cassien, c'est le passeur du monachisme originel qui est oriental à l'Occident. Et Saint-Benoît, c'est celui qui en a proposé la version latine. C'est-à-dire que entre Cassien et Saint-Benoît, c'est-à-dire Cassien, c'est 4e, 5e siècle, il est tout à fait contemporain de Saint-Augustin, et Saint-Benoît, c'est 6e, 7e siècle, entre ces deux périodes, il y a une foison de monastères et chacun suit une règle propre. Donc il y a des tas de règles singulières à droite à gauche. Et ce qui sera propre à la règle de Saint-Benoît, c'est qu'elle va s'imposer partout. Jusqu'à l'époque de Charlemagne, un siècle et demi plus tard, après la mort de Benoît de Nursie, jusqu'à ce qu'on puisse identifier strictement le moine au bénédictin. Peut-être que vous avez encore un peu peut-être cette confusion possible de dire moine, bénédictin, on a presque l'image en tête. Mais voilà, elle date de cette période-là. Alors comment ça s'est passé ? C'est comme toujours les aléas de l'histoire qui peuvent aboutir à ce genre de choses, c'est que en fait Saint-Benoît avait fondé une douzaine de monastères, mais il y en avait des centaines, donc il y avait une douzaine de monastères qui obéissaient à sa propre règle, mais il se fait que lui se tenait au mont Cassin, qui a été entièrement dévasté lors des invasions barbares, et donc ça se passe en 577, le mont Cassin est rasé par les Lombards. Et en l'occurrence, Benoît va se réfugier près du pape Grégoire le Grand à Rome. Et c'est cette proximité avec la papauté qui est fort intéressée de découvrir la vie monastique, la règle bénédictine, et qui par ailleurs a besoin d'un outil d'unification spirituelle à un moment où l'Empire, traversé par des vagues d'invasion, a besoin d'unifier un peu spirituellement la communauté son peuple, quoi. Et donc, le pape Grégoire va envoyer des missions pour implanter cette règle, plutôt d'abord chez les anglo-saxons, et puis partout ailleurs. Et alors, sous Charlemagne, c'est un autre Benoît, qui est Benoît d'Agnane, qui va lire un peu toutes les règles qui existent, les comparer et considérer que celle de Benoît de Nursie est donc la plus complète et celle que l'administration de Charlemagne imposera donc dans ses monastères. Donc c'est celle qui est un peu au socle, si vous voulez, si on considère Charlemagne comme celui qui a inventé l'école, eh bien la codification du fonctionnement de l'école, c'est la règle bénédictine. C'est bien ça qui m'intéresse d'aller chercher dans ce texte-là, c'est la codification d'une façon de vivre qui infuse encore peut-être légèrement l'école d'aujourd'hui. Alors, l'opposition donc entre Aristote et la conception monastique de l'obéissance, ce que je vous ai dit la fois passée sur Aristote, c'était que le problème des Grecs symbolisé par Aristote, c'était une certaine tension entre l'objectif de l'éducation qui est l'émancipation et la situation de l'éducation qui est une situation d'obéissance, c'est-à-dire d'assujettissement. Et le problème, plus précisément, de cet assujettissement pour Aristote, c'est qu'il est dans un rapport interindividuel. C'est-à-dire obéir à une règle, ce n'est pas encore un souci pour un grec. Mais dans une relation personnelle, qu'il y en ait un qui soit soumis à l'autre, qui doivent obéir à l'autre, c'est là qu'est le problème, parce qu'il y a de la passivité. La passivité, c'est le premier problème éthique majeur. Si, par exemple, vous allez dans le domaine de la sexualité, eh bien, ce qui est condamné avant toute chose, dans les comportements, ce qui est proscrit, comme amoral, ce sont les comportements de passivité. Par exemple, l'homosexualité, vous le savez, elle n'est pas proscrite. Au contraire, elle est encouragée, elle va avec des formes d'éducation en Grèce ancienne. Mais c'est justement la passivité d'un homme à l'égard d'un autre homme qui fait problème. Être passif Ouais, c'est vraiment le point central. Et dans cette relation-là, ce qui justifie cette passivité, c'est précisément qu'elle est dans le cadre d'une relation pédagogique. Donc exactement la même chose que l'éducation, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'un moment intermédiaire avant de conduire un jeune apprenti au stade d'adulte où il aura à être entièrement et constamment actif. Donc c'est ce problème, le problème fondamental de l'obéissance, c'est ce problème de soumission et de passivité à l'égard d'un autre qui doit impérativement laisser la place à une émancipation future. Donc il ne faut en aucun cas compromettre par une obéissance actuelle une liberté future. Je vous avais dit aussi que ce qui justifiait cette relation de déséquilibre de pouvoir, c'est la supériorité rationnelle du maître, mais c'était strictement dans la limite de cet exercice de la rationalité. C'est-à-dire qu'un élève, un enfant, gagne à obéir à un adulte dans la mesure où l'adulte est plus rationnel que l'enfant et dans la mesure où l'ordre qu'il donne à cet enfant est l'expression de cette supériorité rationnelle. Un ordre ne peut aucunement émaner d'une colère, d'une irascibilité, d'un emportement émotionnel. Il est absolument injustifié dans ce cadre pédagogique. Donc il y avait tout un équilibre à trouver dans cette relation didactique. Attention, relation de pouvoir, relation de déséquilibre. Il est impératif qu'elle conduise à la liberté de l'autre et qu'elle se fasse donc à l'avantage de celui qu'on éduque. Donc ne jamais profiter du pouvoir qu'on exerce sur lui, l'exercer dans la stricte limite d'une compétence rationnelle supérieure et de l'avantage futur de l'éduquer. Donc ça, c'est le modèle grec, symbolisé par Aristote. Alors voyons, on va faire un changement assez brutal en allant dans les monastères. Eh bien parce que, d'abord, dans le monastère, la docilité n'est plus du tout le moyen d'une fin qui serait l'autre, à savoir l'émancipation. Elle est au contraire la finalité du processus éducatif. Donc, la docilité, c'est ce qui est visé et jamais atteint par la formation, par le processus éducatif. Autrement dit, quand on rentre dans un monastère, c'est pour se faire toujours plus docile. Donc, on ne sort jamais d'une relation d'obéissance. Alors, et c'est même à peu près le pire des péchés. Imaginez qu'on puisse sortir d'une relation d'obéissance. Pourquoi ? Eh bien, ça dépend de ce qu'on considère être comme l'humanité principale de l'homme. Chez les Grecs, c'est plutôt la rationalité. Mais chez les chrétiens, ce qui compte dans l'être humain, c'est sa volonté. Ce qui définit le plus proprement un être humain, c'est que c'est un être de volonté. Et alors, il y a toute une histoire un peu théologique au sujet de la volonté que peut-être vous connaissez, qui est le problème de la volonté humaine, c'est sa dissociation avec la puissance. C'est-à-dire, on veut ce qu'on ne peut pas. Et on voit ça assez bien dans les textes de saint Paul, et dans les textes de saint Augustin, qui fondent véritablement toute la théologie médiévale, qui sont repris par Thomas d'Aquin, mais qui sont aussi qui infusent toutes les règles monastiques, et particulièrement celles de Cassien et de saint Benoît, c'est cette idée que s'il y a une division entre la volonté et le pouvoir, c'est-à-dire si on veut faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, Paul dit « Je voulais faire le bien, mais je pratiquais le mal, et le mal que je ne veux pas, ben je me vois le pratiquer. » Il y a le même genre de choses pour ceux qui ont peut-être lu les confessions, c'est au moment de la conversion, cette espèce de douleur, c'est je voudrais bien, mais je pourrais point. Enfin, vous voyez un petit peu ce truc-là, quoi. On n'arrive pas à se forcer à vouloir, ou on n'arrive pas à se forcer à faire ce qu'on voudrait bien faire, mais il y a quelque chose qui résiste. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très présent, le doute, l'hésitation dans la définition, dans la considération de ce que c'est qu'un être humain fondamentalement, et donc dans la définition de l'humanité à partir d'un modèle plus chrétien. Alors, il y a un fondement un peu théologique à ça, c'est l'histoire du péché originel, qui est un péché de la volonté. Si la volonté est aujourd'hui impuissante, c'est parce que le péché originel est considéré comme un péché de volonté. Alors pour des motifs théologiques, c'est que si Dieu est absolument puissant et absolument bon, bah, comment est-ce qu'on explique l'existence du mal sur Terre ? Eh bien, la volonté, c'est le concept qui permet d'expliquer l'existence d'un mal, c'est d'un mal sur Terre, malgré un Dieu tout-puissant et absolument bon. C'est que les êtres humains sont dotés d'une volonté propre. Mais le problème, c'est que cette volonté, elle est libre, elle n'est pas conditionnée, elle n'est pas obligée par la volonté de Dieu. Elle est donc libre, mais ça veut dire fondamentalement qu'elle est libre pour le mal. Libre de mal agir. On n'est pas libre de contourner les lois physiques, mais on est libre de contourner les lois morales. Et c'est finalement ça qui est presque le fruit du péché originel. Enfin, ce n'est pas le fruit, c'est la cause du péché originel. Et le fruit du péché originel, c'est la division d'une volonté qui ne peut plus ce qu'elle veut. C'est ça. Alors, le truc, c'est maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour soigner cette volonté qui veut sans pouvoir, cette volonté qui est une volonté du mal. Eh bien, le soin de la volonté, c'est ça l'objectif de l'éducation, c'est l'objectif premier d'une éducation au sens moral du terme. Réaliser son humanité, c'est soigner sa volonté. Et soigner sa volonté, c'est apprendre à renoncer à sa volonté propre parce qu'elle veut le mal quand elle veut pour elle-même. Apprendre à renoncer à sa volonté propre pour laisser Dieu vouloir ma place. Peut-être que ça résonne un peu, une messe ou l'autre, une phrase ou l'autre. Eh bien, c'est de ça dont il est question dans la formation monastique. Et viser la docilité, c'est viser le renoncement à son vouloir propre. Alors c'est assez ardu. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que ça peut être, renoncer à vouloir par soi-même, renoncer à sa volonté propre. Il faut un fameux dispositif, il faut une fameuse formation pour réussir un tant soit peu à progresser. Peut-être que vous éprouvez ça de temps en temps. L'âge passant, on peut se dire de temps en temps, j'arrive à laisser passer, j'arrive à ne pas... Mais... oui, alors ils ont imaginé un dispositif effectivement assez puissant dont je vais vous parler un peu. Et je vais vous en parler à la fois un peu théoriquement et un peu concrètement. Théoriquement, en allant un peu du côté des mots. Vous savez peut-être, on a parlé beaucoup de 50 nuances de grès, de gris, mais on a parlé aussi, c'est moins connu, mais quand même, des 50 nuances de blanc. Ça vous dit quelque chose ? Les 50 nuances de blanc que les Inuits sont capables de voir parce qu'ils ont le vocabulaire pour les nommer. Alors j'ai lu qu'en fait c'était une légende, cette histoire de 50 nuances de blanc, qu'en réalité il y avait deux racines fondamentales dans la langue Inuit, comme on aurait, je ne sais pas moi, snow en anglais, et puis après on fait snowboard, on met des suffixes ou des... pour compléter le mot, et en fait, on n'a pas ces 50 nuances pour voir le blanc, mais c'était une belle image, en tout cas, pour dire quand même que dans le vocabulaire d'une langue, on dispose d'une richesse conceptuelle et langagière qui est liée à ce qu'on veut voir, à une certaine vision du monde, et en l'occurrence, ce qui m'intéressait là, c'est d'aller du côté des Grecs pour vous dire, par exemple, que la notion de volonté n'existe pas chez les Grecs. Alors, il y a beaucoup de débats philosophiques pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, une morale chez les Grecs s'il n'y a pas de notion de volonté. Alors, c'est très raffiné. Hein, c'est Hannah Arendt qui, par exemple, a une théorie pour expliquer qu'est-ce que concevaient les Grecs. Ils concevaient plutôt qu'on choisit entre des possibles différents. Mais justement, donc, il y avait une sorte d'équivalence entre « je veux » et « je peux », c'est-à-dire... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Il y a plusieurs options. Je choisis celle-là ou celle-là. Ça, c'était la volonté qui poussait au choix. Ça s'appelait la boulésis. Mais concevoir la volonté comme quelque chose qui est non équivalent au pouvoir, c'est-à-dire qui est potentiellement impuissant, je veux mais je peux pas, ça, voilà, ça c'est pas thématisé. Donc première chose, ce mot-là, ce concept-là n'existe pas chez les Grecs, la volonté. Deuxième chose, il y a tout un vocabulaire qui m'a paru relativement riche, au contraire, pour nommer dans les monastères les formes, les modalités de l'obéissance. Alors j'en ai distingué trois termes pour nommer trois formes d'obéissance et préciser un tout petit peu tout ce qu'on peut inclure sous cette notion plus globale de docilité. Alors il y a d'abord, c'est des mots que vous connaissez, hein, tous, non presque, l'humilité, l'humilitas. Alors l'humilité, qu'est-ce que c'est ? C'est la vertu de celui qui se considère comme plus bas que bas, comme une vermine. C'est l'histoire du ver de terre qui revient assez souvent, dans cette proximité qu'il existe entre l'humus, la terre, et l'humilité. Donc l'humilité, c'est de ramper, c'est le serpent qui rampe le ventre au sol, ce qui est la conséquence du péché pour le serpent. Avant, il avait des pattes apparemment, ça je ne sais pas si vous le savez. Donc l'imaginaire qui revient, c'est vous êtes fait de terre, vous êtes du limon, enfin moi aussi, hein. Nous sommes du limon et nous retournerons à la terre et il faut qu'on se considère pour ce qu'on est et moins que des hommes, quoi. Le dernier des derniers, le plus vil, voilà. Ça, c'est l'humilité. Alors la patience, patientia, la patience, c'est la vertu de celui qui ne diffère pas d'une sorte de matière organique dans les mains d'un sculpteur. Donc celui qui est patient, c'est celui qui se laisse manœuvrer sans résistance. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'obéissance doit être sans le moindre murmure intérieur, sans le moindre retard. Cassien prend l'exemple du moine copiste qui est en train d'écrire. Il ne faut pas même qu'il termine le jambage entamé pour obéir à l'ordre qui est donné. Donc une obéissance, mais simultanée. Et c'est tellement être comme l'eau qui coule sur une pente, quoi. On n'a pas le choix. Sans murmurer aussi. Ça peut-être, si vous avez encore des enfants ou des adolescents sous les yeux, vous pouvez avoir une idée de ce que c'est. Traîner, c'est une chose. Hein, et puis il y a aussi. Voilà. Et alors les moines sont. Il y a toute une sorte de réglementation sur le murmure, quoi. Ne pas murmurer, pas la moindre phrase négative, pas le moindre chuchotement de réticence, de résistance. C'est volontiers, quoi. Ça, c'est la patience. Êtes-vous patient ? Non ? Et alors la troisième vertu. C'est ce qu'ils appellent la subditio. Subditio, on pourrait traduire soumission, c'est-à-dire le fait d'être toujours en dessous d'eux, autrement dit de ne rien faire qui n'ait été ordonné. Alors ça veut dire quelque chose de précis, c'est vous ne devez jamais, comme moine, imaginer de vous-même ce que vous allez faire, parce que tout ce que vous faites, y compris aller à la toilette, satisfaire des besoins naturels, doit avoir été autorisé. Donc on ne doit pas même supposer qu'on a l'autorisation de faire un certain nombre de choses, ce n'est pas le cas. Il faut ne jamais faire qu'obéir à un ordre. Donc ne s'autoriser aucune latitude. Qu'aucun geste de la journée ne soit une forme d'obéissance à un ordre. Ça voudra dire quelque chose de très précis et de très important concernant la vie monastique, qui définit le terme même de règle. Qu'est-ce que c'est qu'une règle monastique ? Eh bien, c'est une codification, minute après minute, de la vie quotidienne des moines. C'est-à-dire, si vous obéissez à une règle monastique, qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça fait précisément que vous pouvez ne rien faire de votre journée qui n'ait été ordonnée par le texte qui gouverne la moindre de vos minutes. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai maintenant. Et revenir maintenant à ça, ça me permet de passer alors plutôt au dispositif concret. J'ai parlé un peu de vocabulaire, le vocabulaire de la soumission, le vocabulaire de l'obéissance, de la patience, de l'humilité, qui décline les formes de l'obéissance. Une chose encore, c'est que ce qui distingue fondamentalement ces formes de l'obéissance, chez les Grecs, c'est que dans ce modèle-là, ce qui est visé, c'est l'abandon. L'abandon, cette idée de ne pas différer d'une matière première, de ne rien faire qui n'a été ordonné, etc. C'est-à-dire n'avoir aucune forme de réserve, de réticence, ne jamais exiger la moindre raisonnabilité d'un ordre, ne jamais murmurer contre cet ordre, c'est s'abandonner aussi entièrement que c'est possible à l'ordre donné par quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, quel que soit cet ordre et quelle que soit cette personne qui ordonne. Et c'est ça la vertu reine, les modèles valorisés dans les règles monastiques sont ceux qui sont capables de cet abandon. Je vous donne deux exemples, qui sont des exemples donnés par Cassien. C'est l'exemple d'un vieil abbé, qui deviendra d'ailleurs l'abbé du monastère, donc celui qui gouverne tous les autres, celui qui a le droit d'ordonner, si vous voulez, mais précisément parce qu'il est un modèle d'abandon, un modèle d'obéissance totale dans toutes les déclinaisons que je viens de vous faire. Et alors l'exemple donné, c'est celui d'un ordre qui a été donné à cet homme déjà âgé, c'est d'arroser un bout de bois qu'on plantait devant lui, dans une terre assez sèche, et de l'arroser trois fois par jour, et il devait parcourir un long trajet sous le cagnard pour aller chercher l'eau et arroser le bout de bois. Et il s'est exécuté pendant des années sans jamais soupçonner le résultat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager ni la raison d'être de l'ordre, est-il fondé ou pas. Vous voyez qu'on est très très loin d'Aristote. Ni le résultat prédictif, voilà, enfin voilà. Alors ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est celui d'un père qui arrive avec son jeune fils de 8 ans à l'entrée du monastère et qui voudrait y rentrer. Eh bien, on va tester l'humilité de ce père en s'attaquant à son fils, en l'humiliant publiquement, le maltraitant, le battant. Le père ne réagit jamais. Et alors ça va jusqu'au test suprême qui rappelle un peu Abraham et le sacrifice de l'enfant, c'est jeter l'eau dans le fleuve pour le noyer, jeter le gamin dans le fleuve pour le noyer. Et le père voilà, ne fait rien, il considère que c'est la volonté supérieure de l'abbé qui ordonne et que voilà. Ah oui, encore un troisième exemple peut-être, c'est on donne à deux moines des figues qui doivent aller porter à un moine qui est isolé dans le désert. Ils sont pris par une tempête et ils meurent de faim, mais ils n'ont pas touché aux deux figues. Ils n'avaient pas le droit de manger ces figues, ils devaient demander la permission. Et ne pouvant le faire, eh bien, il fallait qu'ils meurent sans avoir touché à ces figues. Vous voyez, voilà, les déclinaisons sont assez frappante, et vous pouvez opposer à ce modèle de l'obéissance la plus absolue ce que j'appellerais plutôt la conformité, se conformer à un ordre, qui est plutôt ça qui est envisagé chez les Grecs. Ça voudrait dire quoi, se conformer à un ordre? Ça voudrait dire prendre la forme, au sens, la forme c'est la raison aussi, c'est ce qui motive, c'est-à-dire comprendre suffisamment la raison de l'ordre pour que l'obéissance se transmue quelque part en une adhésion. C'est-à-dire, je peux obéir à ce conseil, cette consigne, parce que je vois l'intérêt, je vois la raison. Et c'est ça qui est visé. Parce que comment est-ce qu'un enfant devient plus rationnel ? Ben, c'est précisément par ce processus d'adhésion par lequel il commence à comprendre la rationalité à l'œuvre dans le commandement de l'adulte plus raisonnable que lui et qui ne lui commande précisément que des choses raisonnables. Donc voilà, deux mondes assez différents. Alors les dispositifs concrets, pratiques, maintenant. Alors, la première source de filtration pour un système aussi extrême, c'est les conditions d'entrée. Il y a bien sûr une pression à l'entrée pour des raisons financières, mais c'est filtré. Et le premier filtre, c'est justement un premier test à l'obéissance. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive et qu'on demande à entrer dans un monastère? Là, je vous parle de ce que Cassien décrit, les conditions de l'entrée dans le monastère, à vos souhaits. Eh bien, c'est 10 jours probatoires pendant lesquels la personne qui veut entrer se trouve à l'extérieur du monastère et a à s'humilier, au sens se prosterner, rester à genoux, à pleurer, et elle subira toutes les formes d'humiliation que on peut juger bon de lui faire subir, et plus même qu'on a intérêt à lui faire subir, parce que ce qu'il y a, c'est que non, l'ordre ne doit pas du tout être raisonné dans le monde monastique, puisque son objectif, c'est de tester et de travailler la docilité. Il doit au contraire être aussi injuste, aussi douloureux que possible, pour tester, pour vérifier. Donc voilà, on fait subir à cette personne toutes les humiliations qu'on peut imaginer, du bizutage, si vous voulez, un peu sévère. Et passé ces 10 premiers jours, s'il a résisté et s'il n'a pas d'argent, je reviendrai sur cette notion, il est admis à rentrer. Mais alors, c'est une première étape, il y en aura encore deux autres. Il est admis juste à l'entrée, et là, il va servir. Alors, il y a un principe qui est important dans le monastère qui s'appelle la clôture. Et la clôture, c'est une réglementation sur les entrées et les sorties, parce que le mode de vie conventuel cénobitique est extrêmement régulier, il est extrêmement minuté, je vous l'ai déjà dit, et donc il ne peut pas accueillir sans tampon des gens qui viendraient de l'extérieur. La clôture, c'est la règle qui protège le cocon monastique des allées et venues des visiteurs. Ils peuvent venir, mais dans une partie tout à fait séparée, ils n'entreront pas dans la clôture. Et alors, ceux qui arrivent, eh bien, ils se chargeront de l'accueil des hôtes extérieurs. Donc, ils sont toujours un peu près de la porte de sortie. Hein, ils ne sont pas encore admis. Et effectivement, il faudra qu'ils fassent toutes les preuves sous le regard d'un supérieur de leur docilité pour poursuivre l'admission. Étape suivante, c'est novice, un noviciat qui dure une année, sous la surveillance d'un ancien, de nouveau, les consignes données à cet ancien, c'est l'obéissance qui va tester le plus radicalement possible la docilité de son petit poulain. Donc il y a ça, vous voyez, quand vous avez déjà passé tous ces stades-là, ben, il y a déjà moins de rebelles, disons, dans les rangs. Après, il y a beaucoup de petites choses qui sont minutieusement décrites dans les règles monastiques. Je vous en évoquerai deux qui me paraissent pas si évidentes que ça, dans le fond, d'une part, pas si faciles à voir que ce que je viens de vous décrire, qui est un peu frappant, pas si faciles à voir non plus que la codification des châtiments, par exemple. J'aurais pu vous faire un tableau aussi repoussant que celui que j'ai à vous faire, peut-être, sur les châtiments imaginés, on murmure, tu murmures. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est les formes discrètes de l'obéissance, parce que ce sont celles qu'on diagnostique moins, et ce sont peut-être celles qu'on est plus susceptible de retrouver dans le système scolaire actuel, où évidemment toutes ces brimades sont absolument intolérables et intolérées. Mais voilà, qu'est-ce qui subsiste par ailleurs de l'organisation de vie du monastère, créée pour créer de la docilité, bâtie dans cet objectif-là et qui peut continuer éventuellement à produire de la docilité là où on ne le suspecterait pas nécessairement. Alors, la première chose sur laquelle j'insisterai, c'est la question du rythme de vie collectif. Je vous ai dit qu'une règle monastique, c'est d'abord une codification au quart d'heure près de la vie collective. Ça veut dire que beaucoup de choses sont prescrites dans cette règle. Ça veut dire qu'on imagine que vous n'avez pas besoin de décider par vous-même à peu près rien du quotidien, c'est-à-dire depuis l'heure du lever, le pied que vous allez mettre en dehors de votre lit en sortant, le vêtement, le nombre de prières, l'heure des prières, le manger, la place où vous allez manger, les déplacements, etc., etc. Donc, vraiment, une codification vraiment très précise. Je soulignerai juste qu'il y a comme des points de fragilité où on sent tout à coup que la codification devient plus précise encore. Et que ce qu'on codifie plus particulièrement, c'est ce qu'on considère être dangereux. Et que ce qui est dangereux dans la vie monastique, c'est les moments d'entre-deux, comme ça. C'est-à-dire les déplacements, le repas, et alors la nuit. Alors, codification de la nuit, c'est vraiment... c'est sous haute surveillance, la nuit d'un moine. D'abord, il y a une sorte de changement très fort, je trouve, dans la considération à l'égard du sommeil. Peut-être serait intéressant de se demander maintenant comment considère-t-on le sommeil, sûrement comme quelque chose d'un peu sacré. Si on n'a pas son compte de sommeil, on serait prêt à dire « Et quoi, j'ai droit à mes heures ». Eh bien, chez les monastères, chez les moines, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une telle crainte du sommeil que on s'applique à réduire absolument le temps de sommeil. Et alors, il y a les recordmen du genre qui sont de nouveau très valorisés dans les textes. Son nom m'échappe. Il est là quelque part, mais bon, je ne sais plus. Qui réduisait son temps de sommeil à une heure par nuit. Cassien, lui, ce qu'il réglemente, ce qu'il conseille, c'est 3 à 4 heures, pour vous donner une idée. 3 à 4 heures de sommeil chaque nuit. Alors, chez les Grecs, ce n'était pas du tout ça. Au contraire, il y avait vraiment une valorisation du sommeil, qui était d'ailleurs un bienfait donné par les dieux, dont Athéna, par exemple, aux hommes, pour leur ôter le souci. Le sommeil, c'était d'abord l'absence de souci. Peut-être qu'on est un peu revenu à cette conception-là. Sommeil, c'est le moment où on ferme son livre à soucis et c'est bien heureux. Enfin, je sais pas. Alors, pourquoi est-ce que c'était dangereux, le sommeil ? Eh bien, c'est évidemment lié au danger, aux difficultés plutôt de la chasteté. Le sommeil, c'est la possibilité de rêver, d'une part. Et les rêves, ils changent aussi de statut, comme le statut du sommeil, le statut des rêves change. Chez les Grecs, il y a plusieurs conceptions du rêve, mais il y en a en tout cas une très favorable, qui est le rêve est un accès potentiel au monde des dieux. Et donc le rêve est prédictif, il nous permet de voir l'avenir, d'être en contact avec une vérité surnaturelle, divine, et avec une forme d'intelligence plus subtil. Alors il y a aussi les rêves d'État, qui sont alors la même chose que ce que les moines voient, c'est les rêves qui révèlent l'état dans lequel vous êtes et précisément qui révèlent l'absence de soin de vos passions. Et donc le problème des rêves, c'est à la fois le problème et la haute surveillance sur laquelle ils sont, c'est qu'ils sont de très bons diagnostics de l'état du travail moral qu'on réalise sur soi-même pour contrôler ses pulsions. Le rêve, il va révéler les pulsions les plus enfouies par les lumières du jour. Il va un peu manifester que on n'est pas parvenu au bout de ses peines et qu'on échappe toujours un tout petit peu au contrôle qu'on voudrait avoir et que le travail moral n'est jamais fini. Donc ça. Je reviendrai après sur les surveillances très particulières autour de la nuit concernant le repas et les déplacements, c'est finalement tous les moments de vacances un peu, tous les moments de vacuité. Or, il y a une sorte de principe du plein, comme ça, dans le monastère, qui est la codification minutée, mais qui est aussi ne pas laisser son esprit vagabonder, parce que précisément de la même façon que le rêve est un danger, eh bien, le vagabondage de l'esprit est aussi un danger. C'est là que les pensées mauvaises peuvent venir se glisser. Et on voit chez Cassien une sorte de principe du plein, c'est-à-dire tu occupes ton esprit constamment, et à ce moment-là, tout va bien se passer, parce que tu auras chassé la place, il n'y a plus de place, il n'y a plus de possibilité, c'est pour ça qu'on réduit les nuits aussi, et si on pouvait ne pas dormir, il n'y aurait plus de possibilité de vacances, hein, les vacances de la pensée, qui risqueraient de laisser de la place à Satan. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en même temps qu'on mange, qu'on se déplace, on prie, on chante, il y a une lecture, c'est-à-dire il y a une suroccupation des moments possibles de transition, de vacances. Oui, une petite chose que je trouve très fine dans les règles monastiques et qui me rappelle tout à fait la codification des messes. Et une messe, c'est quand même assez codé, hein. C'est-à-dire, c'est pas vous qui décidez quand vous vous asseyez, quand vous vous relevez, quand vous dites et ce que vous dites, quand vous chantez, etc., etc. Quand vous allez, et il y a même, enfin, ce serait un scandale incroyable. Enfin, si une personne tout à coup se disait, moi, c'est le moment où j'ai faim, j'irais bien chercher l'hostie. Mais c'est le même genre d'esprit. Et avec, je crois, le même genre d'intelligence sur la fatigue. Il y a beaucoup de trucs sur à quel moment est-ce qu'il y a une langueur qui s'installe ? Est-ce qu'il y a un bâillement susceptible d'arriver ? Je me demandais en préparant cette conférence, tiens, est-ce que le fait même de se lever dans une messe, est-ce que ce n'était pas une réflexion ? Parce qu'il y en a beaucoup dans les règles monastiques sur on va éviter la fatigue, l'engourdissement des articulations, et donc les prières ne vont pas durer trop longtemps. On va mettre du mouvement pour éviter justement que les priorités du corps prennent trop de place, et qu'on n'arrive plus à maîtriser sa fatigue. Ou je me demandais justement si les messes n'obéissaient pas à cette règle, c'est-à-dire qu'on se levait assez régulièrement pour éviter de s'assoupir sur sa chaise. C'est-à-dire la même science, finalement, de la fatigue, quoi, ou de l'assoupissement mental. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La codification au quart d'heure près, de la vie quotidienne, elle est pensée vraiment sur le mode du frottement comme par élimement. Là, on va. L'orgueil, c'est comme une boursouflure, c'est toujours l'image qui revient. Comment est-ce qu'on soigne l'orgueil ? Eh bien, c'est par la vie collective, mais intense, quoi. Vous allez être tout le temps avec les autres. Vous allez être non-stop, y compris la nuit, il va y avoir toujours quelqu'un d'autre tout près qui fait quelque chose en même temps que vous. Peut-être que vous pouvez imaginer ce que ça a d'insoutenable, le fait qu'on ne peut pas se retrancher à un moment, on va dire, peut-être qu'après une journée passée à discuter avec quelqu'un, vous avez envie de rentrer chez vous et qu'on ne vous adresse pas la parole parce que ça va comme ça. Mais c'est tout l'inverse, c'est comment est-ce qu'on va créer une promiscuité, une vie collective, mais tellement constante que ça va élimer un tout petit peu la volonté. Et alors, ce qui est pensé, précisément, c'est l'intérêt du vivre ensemble, justement, comme soin de la volonté, par contraste avec les formes de monachisme oriental, qui étaient plutôt celles de l'érémitisme, donc le fait de vivre seul, ou de l'anachorétisme, ça veut dire la même chose, sauf qu'il y a aussi le semi-anachorétisme, et ça c'était vivre à deux ou trois, à quelques-uns, mais très peu, ou alors c'était vivre seul, mais se retrouver chaque week-end, par exemple, pour un banquet collectif. Alors ces vies solitaires, c'était les vies ascétiques, les moines c'était d'abord ça, c'était des gens qui vivaient seuls, qui vivaient seuls dans des conditions d'ascèse. Alors ça pouvait être extrême, ça pouvait être sur une petite plateforme à quelques mètres de hauteur, une plateforme d'un mètre, et voilà, vous viviez. Vous aviez supprimé tous les objets de la pensée, tous les investissements habituels d'une vie normale, pour être seul avec vous-même et seul avec une nécessité de concentration spirituelle, quoi. C'était ça le principe de l'ascétisme oriental. Mais alors le problème qui est soulevé d'abord par Pacôme, donc on est toujours en Orient, on est un tout petit peu avant Cassien et son contemporain, pour ainsi dire, c'est de se dire, mais il y a d'abord ce côté performeur, c'est de recordman, mais avec l'orgueil qui peut aller avec le côté performeur, c'est je vais devenir le champion de la plateforme la plus petite, je vais m'enterrer dans une cellule, enfin ça devenait, oui. Est-ce qu'on est toujours dans l'esprit de se mettre dans un certain contexte pour avoir un rapport à soi qui est très, très travaillé par le contexte, ou est-ce qu'on devient des performeurs de l'extrême. Et puis il y avait un défaut qui s'appelait la gyrophagie, et qui était, dans le fond, si vous vivez seul, avec le tour de vos propres pensées, il y a un moment où vous manquez de quelque chose pour vous confronter, pour élimer justement ce tour de vos pensées, et vous pouvez d'abord construire une vision de la réalité qui vous est propre et qui peut correspondre à rien de bien commun, d'une part, changer d'avis, c'est-à-dire vous pouvez suivre finalement le mouvement de vos volontés propres, et c'est ça le plus dangereux pour les moines, c'est d'imaginer que seul avec soi-même, on pourrait toujours suivre tous les mouvements de sa volonté, parce que finalement, il n'y a rien qui vient l'empêcher, on est seul. Et ça, c'est la gyrophagie, c'est le moment où vous changez de volonté, vous pouvez... Alors, la vie collective, et ça je trouve ça assez intéressant même pour nous aujourd'hui, de se dire la vie collective est conçue par les moines, et on appelle ça le cénobitisme, koinos ça veut dire ensemble, bios la vie ensemble, elle est conçue comme une façon de soigner sa volonté, par élimement, on va raboter tout ce qui dépasse. Peut-être que ça vous évoque des profils psychologiques différents selon qu'on a vécu dans une famille nombreuse avec tout le temps plein de gens, ou bien selon qu'on a vécu plutôt seul. Ben voilà, ça donne des profils un peu différents, profils qui a été travaillé là par contact avec les contraintes permanentes de la vie collective. Le deuxième point, mais je ne sais plus le point de... Je sais bien qu'il y avait un deuxième point, mais... je vous disais deux points sur les choses plus discrètes, moins aperçues comme des façons de travailler justement sur le renoncement à sa volonté propre qui est l'obéissance. Eh bien, donc il y avait d'une part le rythme collectif et il y a d'autre part le renoncement à toute forme de propriété. Alors ça veut dire effectivement que le moine ne possède plus rien à l'entrée, d'où je vous avais dit qu'il faut qu'il n'ait pas d'argent, c'est-à-dire qu'il soit déjà dans cette démarche de renoncement qui fait qu'il est venu sans argent. S'il a de l'argent, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il veut conserver une marge de manœuvre. Non, pas d'argent, plus ses vêtements à lui, il va avoir le vêtement, l'uniforme de la congrégation. Et Cassien et Benoît insistent énormément là-dessus, il faut qu'il ne considère rien comme sien. Alors ça veut dire que ce qu'il reçoit, ce qu'il fabrique, ce qu'il trouve, n'est pas, il ne doit pas le considérer comme sien, il doit considérer que cette chose est une chose commune et qu'il n'a pas la jouissance de rien de ce qu'il reçoit ou fabrique lui-même. D'une part, et alors d'autre part, la chose qui m'intéresse encore plus, c'est une autre forme de propriété, de nouveau pour aller un peu dans les excès, pour voir comment ça travaille le rapport à soi, c'est la propriété presque du quant à soi, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur un rythme de vie collectif, mais tout le temps. La propriété du quant à soi, c'est pas simplement que vous ne posséderiez rien, c'est que vous n'auriez même pas un coin à vous. Vous voyez, cette idée que c'est mon fauteuil, c'est ma place à table, c'est ma place dans le lit, enfin, ce genre de choses qui sont presque animales, c'est qu'on est des animaux territoriaux, on a besoin peut-être d'avoir sa place à soi, quoi, un truc comme ça. Je crois par exemple que je pourrais dire, bah, il y a presque vos places à vous, hein. Je reconnais ici dans l'auditoire des placements un peu, vous avez presque, si quelqu'un est à votre place, peut-être que vous n'allez pas être content, quoi, hein. C'est mince. Mais... donc vous n'êtes pas encore bon pour le monastère. Supprimer le quant à soi, c'est-à-dire supprimer l'idée qu'on a une place à soi, qu'on peut choisir sa place dans le réfectoire, qu'on a sa cellule. Et là, alors, il y a de nouveau une évolution historique. Initialement, chacun a sa cellule dans les monastères. C'est comme ça, plus ou moins au temps de Benoît de Nursie. Mais ça va changer assez vite, c'est-à-dire qu'on voit le dortoir collectif s'imposer presque de façon contemporaine à Benoît, donc 6e siècle. Ce qui est amusant, c'est de voir que là, c'est le mouvement inverse de l'Occident vers l'Orient, c'est-à-dire que l'Orient, qui est l'initiateur du monachisme, va adopter le monastère, la vie conventuelle cénobitique et la cellule. Et alors on trouve ça légalisé sous Justinien en 700, enfin par là 700 aidés. Donc on a l'obligation dans un monastère d'avoir une salle commune pour le repas, une salle commune qui est le dortoir. Et puis c'est à ce moment-là qu'on surveille un peu tous les déplacements, enfin on surveille la nuit des moines. C'est-à-dire, il y a plus ce quant à soi de la cellule. Il y a des lits qui sont plutôt mis en cercle. Hein, c'est une disposition qu'on encourage pour permettre la surveillance. Donc, on dort avec une lumière, avec un surveillant, sans couverture, avec une robe sain, d'une corde qui est assez symbolique, c'est les reins sains, quoi. La chose qui est assez surprenante aussi, c'est tout cet art de la distance qu'il y a dans le monastère, dans les règles. Il y a une législation des distances, quoi, vraiment. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous tenir à moins d'une coudée d'un autre moine, une coudée, voilà, à 30 cm. Les lits doivent être disposés avec suffisamment de distance. Vous ne pouvez pas murmurer. Alors ça, mais c'est toute la finesse sur tout ce qui va éviter le frôlement, le murmure, enfin tout ce qui risquerait d'aboutir à des atmosphères qui ne sont pas celles qui sont souhaitables dans un monastère. Donc un art de la distance, du frôlement, interdiction de soindre le corps en entier, beaucoup trop risqué, interdiction de se laver nu, etc., etc. On ne peut penser l'autre, le soigner, que sur des toutes petites portions du corps. Enfin, on voit comme ça une sorte de prudence extrême dans le contact à l'autre. Tout ça est soigneusement légiféré. On légifère pas de propriété du quant à soi la distance interindividuelle est même codifiée, quoi. Je trouve que ça va assez loin. Alors je conclurai. Oups là, je vois s'il est temps de conclure. Oui. En revenant un peu à l'intérêt qu'il peut y avoir. Pour aujourd'hui, ce petit tour dans les monastères, dans les règles monastiques de Cassien et de Saint Benoît. Mais d'abord, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est un certain contraste qui peut y avoir entre un idéal qu'on hériterait plus volontiers d'Aristote et des Grecs, un idéal d'émancipation, mais un système scolaire qui est institutionnalisé et qui hérite donc de ce que c'est qu'une vie collective, organisée, minutée, Et donc essayer d'évaluer ce que produit un dispositif, C'est-à-dire, il ne suffit pas, évidemment, d'avoir des idéaux d'émancipation. Il faut encore se rendre compte que l'institutionnalisation de l'apprentissage va avec certaines contraintes qui peuvent produire l'inverse, qui peuvent produire de la docilité pour la docilité, pour l'obéissance, et que dans ces dispositifs qui produisent de l'obéissance, y a ces choses-là qui sont le rythme de vie collectif. Et ça vaut pour l'école, ça vaut, disons, pour tous les milieux disciplinaires où il y a toujours un rythme de vie qui est peut-être plus minuté dans certains lieux. Je veux dire, l'école, c'est le cas. La caserne, l'hôpital, à chaque fois qu'il y a de la vie collective, de l'organisation de la vie collective, eh bien, il y a une façon de minuter la vie qui va faire que, par exemple, dans un hôpital, vous ne mangez pas quand vous avez faim. Vous mangez quand c'est l'heure déterminée pour tout l'énorme bâtiment qui convient aux horaires des infirmières, etc. Mesurer que ce genre de dispositif, bien sûr que c'est de l'organisation pratique, mais que ce qui est intéressant de voir, c'est quand on va dans le monastère, il y a une réflexion thématisée sur la façon dont le rythme collectif produit de la docilité. Ce qui est intéressant, c'est justement, c'est conscient, là. C'est conscient parce que c'est volontaire. C'est-à-dire, non, on a éprouvé la vie solitaire, on voit très bien à quelles extrémités de narcissisme ça peut conduire. Il faut de la vie communautaire, et alors on va y aller, mais à fond, quoi. On va la densifier, cette vie communautaire. Donc mesurer que le rythme collectif est une contrainte, qui est quelque chose qui rend docile, mesurer l'impact sur nos vies. Vous avez peut-être dans vos familles des exemples, ou peut-être que pour vous-même ça parle, c'est, toute une vie, c'est une vie de contrainte horaire. Souvent, une vie de travail, c'est des contraintes horaires, l'école, c'est ça, l'école des enfants, après, c'est ça. Tout ce qui fait que, en fait, l'idée même de l'idiorythmie, alors l'idiorythmie, c'est justement ce qui se passait dans le monachisme oriental, c'est de déterminer son rythme propre. C'est, je vais déterminer à chaque moment ce que je fais. C'est quelque chose qu'on peut vraiment avoir envie, hein, dans une vie, de se dire... Stop, stop à la pression, stop à l'accélération du rythme, ou stop à la collectivité, au fait que je ne peux pas manger quand je veux, parce que voilà, je dois manger quand c'est l'heure de ma pause, ou quand c'est l'heure de la cantine, ou quand c'est je dois aller chercher des trucs, des médicaments quand les pharmacies sont ouvertes. Enfin, tout ce qui fait qu'une organisation collective limite la libre décision d'un rythme de vie. Mais oui, les exemples auxquels je pense, c'est parfois que quand on se retrouve à la retraite, tout à coup, il y a un certain nombre de rythmes qui s'enlèvent. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, ça peut être dans les deux sens. Hein. Il y a des gens qui se disent « Waouh ! Quel pied ! Retrouver enfin la libre détermination de mon temps !» Mais enfin, quel bonheur, quel soulagement ! Mais ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être... Je suis perdue dans l'absence de cette dictature des rythmes. Moi, j'ai appris à suivre un rythme comme ça. Et une fois qu'il n'y a plus, je ne sais plus, quoi. Je ne suis plus du tout... C'est presque aussi... Est-ce qu'on arrive encore à savoir quand on a faim parce que, voilà, les rythmes depuis... Là, par exemple, dans le monastère... Le moine, il ne doit pas du tout décider quand il a faim, ni même la quantité qu'il mange. On appelle ça la discrétion. Et on se trompe d'ailleurs sur le sens de ce mot-là. La discrétion, c'est quoi ? C'est le fait que c'est laissé à la discrétion de l'abat du monastère, du père, de savoir qui mange et quand. Donc le régime de chacun est déterminé par un seul, et donc vous n'avez plus à guetter vos propres sensations. Si vous vous rappelez, Rousseau, c'était tout l'inverse, quoi. Surtout une éducation à ses propres sensations. Mais là, non, c'est ça va se décider en haut lieu et vous n'avez plus besoin de vous inquiéter vous-même de ce que vous sentez. Il faut au contraire devenir sourd et aveugle à vos volontés, mais aussi à vos désirs, etc. Donc voilà, cette question du rythme me paraît intéressante, souligner le rapport entre l'imposition d'un rythme et le pouvoir. Une image qui me vient en tête, c'est une maman avec son petit gamin qui va à son rythme à elle, et le petit gamin, ben, il cavale. Voilà. Ça, c'est imposer à un enfant le rythme d'un adulte. Mais voilà, une vie commune, c'est toujours ça. Peut-être que, enfin, moi j'ai des exemples dans ma vie. Je vis avec quelqu'un qui est plus lent que moi. On pourrait dire que nos rapports de pouvoir sont constamment sur le rythme. C'est-à-dire, moi j'accélère, ça l'embête, il va traîner. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Traîner, accélérer, comment c'est toujours un rapport de force, quoi. Comment il y en a toujours un qui gagne ou qui résiste ou qui. Voilà. Donc voir le rythme comme un lieu de pouvoir, ça c'est une chose qui me paraît pas si évidente que ça. Et puis les autres choses finalement m'intéressaient moins, la question de la législation des silences, de la législation sur la distance, tout ça. Oui, c'est des choses peut-être moins... plus frappante comme ça pour l'imagination quand on lit les règles monastiques, mais oui, qui disent moins de choses fondamentales sur ce que c'est que la vie. Juste une petite chose encore, c'est que ça me pose question, moi, sur ce qu'est la politesse. Parce que dans le fond, politesse, d'abord, il y a un éloge monastique de la politesse. La politesse, c'est la police des mœurs. C'est la douceur du contact avec l'autre. Donc tout ce mode de vie collectif où, par élimination des volontés propres, c'est un monde de la politesse, c'est un monde de la douceur, c'est un monde où on apprend à ne pas brutaliser l'autre, où on apprend à ne pas... Enfin voilà, il y a tout un... Il n'y a pas simplement que le rapport où on ordonne des choses dures, ça c'est la formation, mais... Après, il y a aussi ce que la vie collective, une fois qu'elle s'est installée, permet en termes de douceur. Et la politesse, c'est toujours un peu ça aussi, c'est élimer les volontés individuelles, les orgueils, pour dire qu'il y a de la législation, là, il y a de la codification. Ton geste, tu ne peux pas le choisir. On va t'imposer un certain nombre de gestes, comme on impose dans le monastère un certain nombre de gestes. Et voilà, ça c'est une autre des choses. L'école est un grand lieu de la politesse. On apprend la politesse, mais pour moi, cette ambivalence de à la fois comment on fait pour vivre ensemble et quelles sont les nécessités du soin de la volonté pour vivre ensemble, et aussi jusqu'où on crée de la docilité, est-ce qu'on en fait un objectif en soi? Et peut-être que certaines personnes qui sont polies jusqu'au bout des ongles, vous pourriez vous dire, mais. Il manque un truc, quoi. Il manque quelque chose qui vit encore, là, qui n'est pas juste polissé jusqu'au bout, jusqu'à la racine. Voilà, ce genre de tension me paraissait intéressante à amener comme problème, et pas spécialement, je n'ai pas de solution à vous proposer. Je préfère que vous repartiez avec des questions que des réponses toutes faites. Voilà, j'ai fini. À vous. Oui. Vous n'avez pas levé la main, mais je vois un regard. Et c'est vous. Oui. Là, ça commence mal. Si vous dites c'est pas pour, probablement que c'est pas pour vous critiquer, mais. Donc c'est pas pourquoi. On vérifiera si c'est ça que vous faites, d'accord ?
Pardon ?
On vérifiera si c'est ça que vous faites.
Mais c'est juste pour dire que, par exemple, quelqu'un a écrit déjà au XXe siècle sur l'icône orthodoxe que, par exemple, le fait que la forme est déjà décidée, ça libère celui qui crée l'icône de la remplir par la spiritualité. Donc, cette asservissement extrême, est-ce que ça peut mener quand même à une certaine libération de l'esprit?
Oui, alors je crois effectivement que c'est ça qui est visé, et c'est ça qui est visé, je crois, dans les exercices spirituels, Ignace de Loyola ou ce genre de choses. Je pense que précisément là, on pense les dimensions libératoires de l'ensemble des contraintes ou des conditions de vie dans lesquelles on se met. Moi, j'ai été dans les règles monastiques où ça n'a aucune place, vraiment aucune, et où la liberté même d'esprit est un... Enfin, quelque chose d'effrayant, en fait, comme je le disais sur la question du plein, là. Et ça va plus loin, c'est que, par exemple, tout ce qui pourrait être spirituel, c'est-à-dire tout ce qui pourrait ouvrir l'esprit à une dimension à la fois intellectuelle et aussi de conscience, disons, comme, par exemple, lire. Le monastère, c'est un endroit où on lit pas ailleurs, et on lit silencieusement. Eh bien, ce qui m'a frappé, moi, c'est de voir que, dans la lecture... On attendait des effets, d'abord la douleur, enfin les choses dures de la lecture, parce que lire c'est compliqué, apparemment, c'est une punition, lire en fait, et réellement, hein, dans les punitions, il y a, tu vas lire. Et lire, c'est comme un martèlement, c'est comme, enfin c'est pas le plaisir de découvrir quelque chose qu'on aurait nous, enfin on penserait la lecture dans ce terme-là, c'est la souffrance de lire et relire le même machin. Voilà, pour la punition, pour la pénitence. Ouais. Et cet aspect est assez présent. Mais je ne dis pas que c'est l'ensemble de la vie monastique. Effectivement, il y a d'autres, plus tardifs alors. Moi, disons que ce que je vous ai décrit, c'est la transition avec le monachisme oriental, donc 4e siècle. Benoît de Nursie, 6e siècle. Et puis ça va jusque... 11e, 12e siècle après, voilà. Effectivement, il y a des possibilités de libération mentale liées aux contraintes, oui, je crois, que je connais moins. Je connais plutôt l'aspect dur et négatif. Mais c'est lié au texte, c'est lié aux périodes historiques. Ça me semble tellement plus doux, l'orthodoxie. Enfin, l'orthodoxie, c'est donc, si on le définit étymologiquement, le fait de suivre la juste doxa, donc l'opinion qui a été considérée comme le canon, le dogme, et donc de ne pas défendre, par exemple... Cassien pourrait avoir été concerné par ça, parce qu'en fait, il a défendu une position semi-pélagienne. Alors, ouais, ça veut dire une position hétérodoxe, au moment où Augustin, qui s'oppose à Pélage sur la question justement de la volonté, de la libre détermination, voilà, on pourrait dire Cassien, il est hétérodoxe parce qu'il défend au sujet d'une doctrine qui finira par devenir le canon de l'Église une position d'hétérodoxie. Il y aura voilà, un conflit entre Augustin et Cassien. Mais voilà, ça n'empêche pas que Cassien est le législateur, pour beaucoup plus qu'Augustin, du monachisme occidental et d'une forme donc d'obéissance. Donc je crois que c'est des problèmes distincts. Et qu'en fait, même ce que je pourrais dire, c'est que la bataille pour l'orthodoxie, c'est une bataille de théologiens, et que dans les monastères, on n'a pas des théologiens, on a des moines, ça n'a rien à voir, justement. Ils sont là pour travailler manuellement, pour une vie paisible, ritualisée, etc. Ils ne sont pas là pour étudier les textes, par exemple. Par exemple, les moines copistes, c'est la même remarque que sur la lecture. Copier, c'est de nouveau une pénitence, un travail fatigant et qu'on fait de façon assez bête au sens où on copie sans intelligence. Les textes sont bourrés de fautes et c'est pas de l'exégèse, c'est pas de l'intelligence des textes, on les commente pas, c'est juste une tâche physique, quoi, presque.
Oui.
Donc cette vie monastique en elle-même ne porte aucune récompense, les récompenses au-delà.
Oui. Ah ben oui, ça oui. Oui, cette histoire de les premiers seront les derniers, tout c'est. Oui. C'est pas une vie de plaisir, hein. Le plaisir fait pas partie de l'organisation de la vie collective, non.
Même pas de plaisir
spirituel. Non, non. Ah oui, alors voilà, oui. Mais ça va d'ailleurs avec ce que je disais sur la politesse, c'est que il y a une codification donc de qui parle quand, de qui se tait, de qui doit demander combien de fois la parole. Si on vous la donne pas, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous pouvez pas la demander plus que, je sais plus, deux fois. Mais aussi l'interdiction absolue de rire, quoi. Ça. Oui. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait. Oui. Oui, le rire dans ce qu'il a de d'irruptif et puis de potentiellement, oui, voilà, de diabolique. De, il ouvre des portes, oui. Oui.
Donc d'une école, je pense surtout au collège catholique de ma jeunesse qui fait des dizaines d'années. Et c'était vraiment ça. Je ne dis pas que c'était jusqu'au point que vous avez dit, mais c'était minuté. Et, notamment la promiscuité, la pudeur, etc. Ah ouais, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, il y avait aussi la fameuse surveillance des dortoirs. Et dans certaines écoles, les élèves, ou filles ou garçons, devaient obligatoirement, par exemple, dormir les mains hors du...
Tout à fait, oui. Ouais.
Hein? Et alors, toute petite chose, dans une famille que je connais bien où c'était ultra-catho, mais là, je vous parle d'il y a très longtemps, eh bien, on disait aux petites jeunes filles que quand on rit ou qu'on sourit, on ne peut pas montrer ses dents. Parce que sinon, ça fait pleurer la Sainte Vierge.
Je l'ai fait pleurer beaucoup, alors je crois, moi.
Hein? Oui,
oui, je... Oui.
Cette organisation des collèges est finalement issue du système...
Voilà, tout à fait. Et effectivement, c'est pas si lointain le temps où la proximité était vraiment très très forte avec voilà ce que je vous décris qui date d'il y a 1300 ans quoi et ce qu'on pouvait vivre il y a encore pas si longtemps que ça et puis il y a encore des choses qui restent de ça. Moi je pense à une chose, c'est peut-être que vous connaissez le panoptique de Bentham, je sais pas si ça vous dit quelque chose ça. Le panoptique c'est un dispositif architectural qui est prévu pour organiser la surveillance complète. Alors c'est plutôt un dispositif qui est prévu pour les prisons, et de fait, il y a beaucoup de prisons aujourd'hui qui fonctionnent sur le modèle du panoptique. C'est une tour centrale, la prison avec les cellules et tout autour. Alors de la tour centrale, on peut surveiller tous les prisonniers, mais qui eux-mêmes ne voient pas si on les surveille ou non. Et donc il n'y a même pas besoin qu'ils soient surveillés, c'est-à-dire la simple... Le simple fait d'avoir rendu possible la surveillance agit comme une transformation mentale des prisonniers, une réforme. C'est au moment où on a commencé à envisager que la prison devait réformer moralement les prisonniers qu'on a envisagé un système de surveillance qui allait opérer cette réforme, c'est-à-dire tu n'as même plus besoin d'être surveillé pour opérer sur toi-même un contrôle constant parce que tu crois être sous le regard de quelqu'un d'autre. Et dans le fond, une des choses qui m'a frappée, c'est que les écoles ont été aussi bâties sur ce genre de modèle. Et je lisais certains textes du 19e siècle par là, où on obligeait une surveillance permanente de tout le monde. Alors, non seulement l'élévation de l'estrade permet la surveillance constante des élèves, il ne faut pas mettre les mains en dessous, il faut les mettre au-dessus, ce genre de choses. Il y a aussi les vitres sur le côté qui permettent la surveillance de l'extérieur. Il y a aussi des petits trous qui étaient pratiqués dans les toilettes pour qu'aucun lieu n'échappe, qu'on pouvait surveiller au moins partiellement ce qui se passait dans les coins obscurs. Et donc, il y a aussi une organisation scolaire sur le modèle de la surveillance, comme dans les prisons, quoi. Et cette organisation, elle est architecturale, elle est vraiment gouvernée par l'architecture. L'autre truc qui me frappait, c'est la proximité entre l'idée d'une absence de propriété même de son siège ou de sa place à soi et les organisations modernes du travail, où c'est ouvert, on est d'abord tous sous le regard de tous, avec évidemment l'immense effet de surveillance possible. Si votre écran est vu par les trois autres, vous allez moins souvent être sur Facebook ou que sais-je. Et si vous changez constamment de poste, parce que c'est ça aussi, hein, on change d'endroit, on n'a plus son bureau à soi, mais on n'a plus cette espèce de camp à soi, de son petit espace, là, on crée de la publicité. Voilà, c'est enfin de la vie publique, quoi. On est au milieu des autres, sous le regard des autres, et on n'a plus son siège à soi, son bureau à soi, caché un peu. Enfin, oui. On va vers ça un peu, de nouveau. On revient à un peu plus de surveillance aussi, de ce côté-là, disons. Avec les mêmes enjeux, quoi. Hein. Jusqu'où va l'emprise sur les êtres humains, hein. qu'est-ce qu'on leur laisse comme latitude quand la morale chrétienne, c'est une morale du regard permanent, hein. C'est non seulement c'est organiser des systèmes de surveillance, mais même quand il y a personne, il y a Dieu, quoi. Et Dieu, il voit tout, quoi. Et voilà, en fait, la prison, elle a fonctionné sur ce modèle-là. C'est on moralise par regard scrutateur qui voit tout, y compris l'intérieur, les pensées, les désirs. Ben quand vous savez ça, ben voilà, vous vous contrôlez vachement plus. Mais on est aussi dans une société avec des burn-out qui se multiplient. Moi, je lirais très volontiers une société de la surveillance qui commence à devenir beaucoup... Enfin, voilà, qui commence à s'installer partout. Et la pression mentale que ça peut représenter, d'être sous le regard. Pardon ?
C'est du fascisme.
Du fascisme. Oui, j'ai vu ça. Mais oui, je sais pas, moi ça me paraît assez banal. Ce qui est pas banal, c'est les choses contre lesquelles on peut s'opposer facilement, comme le fait qu'on mette des caméras ou qu'on prenne les empreintes de façon un peu systématique, qu'on ait des surveillances organisées, de lignes téléphoniques privées, ou ce genre de trucs qui nous posent encore problème. Moi, ce qui me paraît être... plus le rôle d'un philosophe, et donc le mien, c'est d'aller là où on voit moins le poids. Et par exemple, souligner que ne pas avoir son fauteuil à soi, c'est aussi une forme de contrainte assez puissante, mais très discrète. C'est-à-dire que vous pouvez difficilement dire ouais, j'aimerais bien un fauteuil à moi, ça a l'air un peu enfantin, mais il y a quand même des enjeux qui ne sont pas anodins, en fait, dans le fait d'avoir son fauteuil à soi, son bureau à soi, ou bien... ça pose au moment où on a faim. Et pas, voilà, c'est au moment où ça se met, au moment où tout le monde prend sa pause, ou, enfin, que sais-je. Voilà, aller plutôt diagnostiquer les petites choses discrètes. Moi, l'autre chose qui m'intéresse, c'est l'obligation de faire des rapports de toutes choses, qui me paraît être aussi un des gestes de la surveillance. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde, que vous soyez soumis au regard de quelqu'un, mais la possibilité que quelqu'un lise un rapport et que vous deviez constamment en produire pour rendre compte de vos activités, ben voilà, ça, c'est quand même de la surveillance anodine, disons. Voilà, mais c'est voilà, ce genre de choses. Mais... oui, mais...
en France, en Normandie, et on peut dire que ce monastère
piquait le cœur et on voyait que le moine trichait. On pouvait voir des sièges rabattables qui pouvaient rabattre dans les offices. Donc de l'extérieur, on pouvait voir, on pouvait croire qu'il restait des heures debout, mais en réalité, il pouvait s'asseoir un petit peu.
Ça s'appelle miséricorde.
Ah oui, c'est ça. Oui, ça c'est une enquête intéressante, la tricherie des moines, mais. Oui?
Moi je me posais la question, vous pouvez pousser quelqu'un à une vie aussi extrême, on peut le dire, parce que bon, pour des enfants qu'on met dans un collège ou un lycée catholique, à une époque où c'était obligatoire, où les parents forçaient la main, ça me paraît plus compréhensible qu'un adulte.
Et ça vous demande d'abord de sortir de vous-même, de sortir de l'époque dans laquelle vous êtes, des valeurs qu'elle draine, pour se dire bon, qu'est-ce qui se passe à une époque, voilà, peut-être plus rude, point de vue des conditions de la vie, de la survie, où le monastère reste le seul lieu de la culture. C'est-à-dire c'est l'école quoi, ça reste ça. Aujourd'hui tout le monde va à l'école, mais à ce moment-là le monastère c'est l'école. Il n'y a pas d'institution indépendante qui enseignerait la lecture, l'écriture. Et le monastère est aussi un lieu extrêmement puissant. Vous connaissez l'histoire des rapports entre le clergé et la politique. Le clergé en Occident. A longtemps eu un pouvoir. Après, il y a le rapport entre la papauté et les moines. Enfin, ça, c'est plus compliqué aussi. Mais et puis, ils sont financièrement très, très, très riches. Les monastères, c'est aussi, avant que les villes n'existent, c'est les lieux. C'est d'abord les lieux, c'est des propriétaires terriens, des propriétaires... de bâtiments, c'est des lieux d'échange commerciaux, donc c'est vraiment un socle de la vie médiévale en fait, le monastère, d'où je pense que la question ne se pose absolument pas de savoir si on rentre ou pas dans le monastère, c'est une grande chance. Comme toujours, il y a des époques où les contraintes de la vie qui sont des contraintes de la survie économique, de la famille parfois, sont tellement plus déterminantes que la question n'est pas de savoir si on souffre ou pas, si on voudrait bien plus de liberté. Ça se pose ici, malgré la crise, dans une société de confort moral et physique qui n'a aucune mesure, je crois. Est-ce que vous avez faim ? C'est le moment d'un repas peut-être ? Une trappiste, oui. Voilà. Bonne soirée. Merci d'être venu. Merci.